Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Crise dans l'Est de la RDC, la Belgique soutient la tenue d'un dialogue national inclusif. C'est le ministre belge des Affaires étrangères qui l'a annoncé le mardi 20 janvier dernier. Maxime Prévost a formulé cette requête en marge du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Sur son compte X, le chef de la diplomatie belge a souligné la convergence des vues entre Bruxelles et Kinshasa sur la résolution du conflit. Nous avons réaffirmé notre engagement pour une solution pacifique dans l'Est de la RDC et le respect pour son intégrité territoriale et encourager un dialogue national inclusif, a-t-il précisé. La France, pour sa part, préconise le dialogue intercongolais en RDC. Dans une communication datée du 19 janvier dernier, par la voix de son ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ce pays encourage le dialogue intercongolais comme solution à cette crise qui sévit dans la partie orientale de la RDC. Dans cette communication, Paris considère cette initiative comme complémentaire au processus en cours à Doha, à Washington et à la médiation africaine. Quelle analyse faire du soutien de la Belgique et de la France à l'idée de la tenue d'un dialogue national inclusif en RDC? Tel est donc le thème de ce soir.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
À tous et à chacun, bienvenue à ce nouveau numéro du dialogue entre Congolais et surtout, bonne condition d'écoute. André Mongo assure la mise en onde et devant ce micro, Jean Gandou. Une fois de plus, bonsoir. Pour le débat de ce soir, nous recevons Christian Mwando Simba, qui est député national élu de Moba dans la province du Tanganyika. Il est cadre d'Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition et président du groupe parlementaire Ensemble à l'Assemblée nationale. Il est également ministre honoraire. Est présent aussi dans ce débat Passim Bayo, qui est au cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, et lui est à Lubumbashi. Et dans ce studio, nous avons Jolino Maloukissa, il est professeur et directeur du pilier gouvernance à l'Institut Congolais de Recherche sur la Politique, la Gouvernance et la Violence, et Bouteli. À tous et à chacun, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci donc de nous suivre sur les différentes fréquences, notamment à 95.8 MHz à Lubumbashi, 94.8 à Walikale et 104.9 à Walikale, donc à Manono sur 104.3. Voilà donc pour cette crise dans l'Est de la RDC. La Belgique soutient la tenue d'un dialogue national inclusif et c'est le ministre belge des Affaires étrangères qui l'a annoncé, comme nous l'avons dit. Plus de détails avec Benjamin Mutumbi dans ce reportage.
En RDC, les demandes en faveur de l'organisation d'un dialogue national inclusif s'intensifient. Après la CENCO SCC et plusieurs figures de l'opposition du pays comme Moïse Katumbi ou Martin Fayoulou, c'est désormais la France et la Belgique qui appuient cette idée. Paris a appelé le 19 janvier à l'ouverture d'un tel dialogue. Une initiative qu'il présente comme complémentaire au processus en cours à Doha, à Washington et à la médiation africaine. De son côté, le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, encourage l'active d'un dialogue national inclusif en RDC. C'était au cours du Forum économique mondial de Davos, tenu en Suisse mardi 20 janvier. Maxime Prévost a également insisté sur le fait que la Belgique demeure un partenaire stratégique, déterminé à agir pour que les puissances européennes se mobilisent davantage face à la situation humanitaire dramatique subie par les populations vivant dans les zones occupées par les rebelles. Le Forum de Davos intervient dans un contexte de diplomatie active où la RDC cherche à consolider ses soutiens internationaux pour obtenir un retrait définitif des troupes étrangères et de leurs alliés du sol congolais. Pour rappel, le chef de l'État de la République démocratique du Congo s'est déjà dit favorable à l'organisation d'un dialogue national sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, mais sans les Congolais inféodés aux pays étrangers, a-t-il martelé. Félix Tshisekedi a fait cette déclaration lors du 2e congrès de l'Union sacrée de la Nation, samedi 30 août à Kinshasa.
Merci Benjamin Mudumbi. Christian Mwando, je rappelle que vous êtes député national élu de Moba dans la province du Tanganyika et que vous êtes également cadre d'Ensemble pour la République, parti de l'opposition et président du groupe parlementaire Ensemble à l'Assemblée nationale. Quelle analyse faire du soutien de la Belgique et de la France à l'idée de la tenue d'un dialogue national inclusif?
Bon, je pense d'abord que je salue tout le monde et je salue mes co-débatteurs. Je salue aussi mes électeurs au niveau du territoire de Moba et toute la population du Congo qui nous suit aujourd'hui. Je pense que le soutien que la Belgique et la France ont accordé au dialogue inclusif est quelque chose de tout à fait normal, parce que c'est dans ce sens que l'ensemble de la communauté nationale et internationale se dirige. Dans la mesure où toutes les analyses qui ont été faites à tous les niveaux ont démontré qu'il n'y aura pas de victoire militaire entre la partie gouvernementale et l'AFC M23 appuyée par le Rwanda. Il n'y aura pas de victoire militaire. Dès lors qu'il n'y aura pas de victoire militaire, il y aura besoin d'un dialogue. Ce dialogue se déroule déjà à deux niveaux. La partie Washington, où il y a un accord de paix avec le Rwanda, c'est-à-dire ça règle le problème de l'agression extérieure ou du soutien du Rwanda à la rébellion. La partie Doha, où on a un dialogue direct entre les Congolais qui ont pris les armes et le gouvernement. Mais il reste le troisième acte, qui est l'acte le plus important, qui est le dialogue interne et inclusif, parce que ce dialogue-là doit réunir autour d'une table tous les fils de la République démocratique du Congo qui ont un mot à dire. Ceux qui ont porté les armes, ceux qui n'ont pas porté les armes, ceux qui sont au gouvernement, la société civile et toutes les couches de cette population. Ce dialogue aura pour objectif de résoudre à long terme la crise multidimensionnelle que traverse notre pays, dont le conflit armé n'est que l'un des aspects et l'aspect le plus visible et le plus important. Ce dialogue aura pour objectif essentiel: 1. De rassembler tous les fils du pays autour d'une table pour aborder les causes profondes de cette crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Les guerres, les tueries, parce qu'il n'y a pas que la guerre, il y a les tueries, ADF et autres, il y a les problèmes de sécurité sur l'ensemble du territoire. Vous avez les Mobondo, vous avez les pillages qui s'organisent dans les maisons des gens, partout en République démocratique du Congo. Il y a la déliquescence sur l'État. Il y a également le respect de la démocratie, le respect de liberté, les questions de gouvernance, les questions de corruption. Donc, comment refaire la cohésion nationale et trouver ensemble des solutions consensuelles pour bâtir un pays fort et uni? Parce que n'oublions pas que les défaites que subit notre pays au niveau de la guerre étaient dues à la faiblesse de l'État. Comment renforcer notre État pour ne plus avoir à nous plaindre? C'est une solution qu'on doit trouver ensemble.
Merci beaucoup.
On doit également élaborer une feuille de route comme pour la refondation de l'État et l'obtention d'une paix durable. Et enfin, mettre en place les mécanismes et les structures devant nous conduire à des élections libres, démocratiques et transparentes en 2028. Voilà les objectifs que nous voulons faire. Et je pense, dès lors que le président de la République a accepté de discuter avec ce qu'il a appelé les pantins à Doha, parce qu'ils sont en pleine discussion, il n'y a pas de raison pour qu'on n'accepte pas que tout le monde soit autour de la table dans un dialogue inclusif, parce que c'est l'affaire qui concerne tous les Congolais. Merci. Et c'est la seule solution qui est envisageable pour une paix durable.
Merci Christian Wando. Alors dites-nous, est-ce que le dialogue seul suffit pour ramener la paix dans la partie Est de la RDC?
Le dialogue, je vous ai dit que le dialogue seul ne suffit pas. C'est pour ça que nous appuyons en même temps le processus de Washington qui a mis en place le gouvernement avec le Rwanda, qui doit pouvoir se retirer avec l'accord de paix qui a été signé. C'est pour ça que nous appuyons également le processus de Doha qui met en place le dialogue entre les belligérants qui doit aboutir au cessez-le-feu. Mais ces deux aspects ne peuvent à eux-mêmes conduire à une paix durable, parce que le problème ne se limite pas à ça, et on ne doit pas encourager aussi que des problèmes graves tels que les problèmes d'identité nationale, les problèmes de nationalité et autres, soient traités entre les belligérants en dehors de tous les autres membres de la société et de tous les autres citoyens. Parce que je ne sais pas si vous avez pu lire le protocole, l'accord cadre entre le gouvernement et le M23, l'AFCM 23. Vous avez des éléments tels que pour les autres protocoles dont ils doivent discuter, hein, l'accès et la protection judiciaire, le rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes et les dispositions relatives à la gouvernance participative nationale, l'identité et la citoyenneté, la relance économique et sociale, justice, vérité et réconciliation. Est-ce que ces points-là, vous pensez que peuvent être vidés uniquement entre les gens qui vont porter les armes? Je pense que ce sont des questions qui concernent l'avenir de la nation et il n'y a pas que ceux qui ont porté des armes qui peuvent en discuter. C'est un problème qui concerne l'ensemble des citoyens congolais. C'est un problème de refondation de la République.
Et vous avez suivi le chef de l'État qui s'est dit ouvert au dialogue, mais pas à n'importe quelle condition, pas avec n'importe qui.
Mais le chef de l'État est déjà en négociation avec ceux qui ont porté les armes. Pourquoi il va négocier avec les gens à Doha? Parce qu'il avait dit auparavant qu'il négocierait jamais avec eux, même s'ils arrivaient devant la porte de l'OIA. Mais pourquoi aujourd'hui il négocie avec eux à Doha et il va refuser de négocier avec eux dans un cadre où élargi? Est-ce qu'il y a des choses à cacher?
Nous allons y revenir et là nous allons chez Passim Bayo qui est au cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Passim Bayo, bonsoir, vous êtes à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Quelle analyse faites-vous du soutien de la Belgique et de la France à l'idée de la tenue d'un dialogue national inclusif?
Bien, de prime abord, je salue l'honorable Christian Mwando, y compris le professeur à qui je présente mes voeux les meilleurs de cette nouvelle année.
Jolino Maloukissa.
Jolino Maloukissa, professeur, mes voeux les meilleurs à vous, mes voeux les meilleurs à l'honorable Christian Mwando. Alors, en fait, pour faire d'une pierre deux coups, vous allez vous rendre compte, au nom de la simple logique intellectuelle, les propos du ministre des Affaires étrangères, tout comme ceux de la France, sont superfétatoires.
C'est-à-dire?
En ce sens que je dis que ça ne vient que ajouter du superflu. L'essentiel a déjà été monté. Le président de la République, qui est le premier citoyen de ce pays, le garant de la bonne marche des institutions, est au centre de tout, père de la nation, etc., etc., a déjà accepté l'idée du dialogue plus de 6 fois dans ses discours.
Mais il ne l'a dit pas avec n'importe qui.
Mais j'en viens, je vous vois venir. J'ai dit que sur le plan du besoin du dialogue, nul n'est contre le dialogue. Mais la question la plus importante à se poser, c'est le pourquoi et le comment du dialogue. Nous sommes dans une situation à plusieurs têtes. Je vous ai dit autrefois que Luanda a donné naissance à un corollaire qu'on appelle Washington. En fait, la situation de Luanda a été récupérée par les États-Unis. Et la situation de Nairobi a été récupérée en une certaine mesure par Doha. Et tous les États que je venais de citer ici ont d'une manière ou d'une autre une poursuite quelconque en termes de coopération, d'intérêt de sécurité, etc., etc., avec notre pays. On ne doit pas se voiler la face. Vous êtes sans savoir que la société mondialisée dans sa connotation actuelle est caractérisé par le fait que tout bouge et tout ne cesse de bouger, ne cessera de bouger, par la suite des intérêts des États puissants.
Est-ce que vous pouvez aller à l'essentiel, Passim Bayo?
Alors, pourquoi je vais à l'essentiel, Jean Gando? Je dis que le président de la République a toutes ses raisons de poser des conditionnalités pour ce dialogue tant souhaité par nos amis de l'opposition, en l'occurrence. Il y a une certaine société civile, puisque chez nous la société civile est plurielle, il y a celle qui est anti-régime, celle qui est pro-régime, etc., etc. Alors, mais comment voulez-vous aller à un dialogue avec des gens, par exemple? Je prends, par exemple, le camp de Kabila. Ils se veulent eux-mêmes être dans le mouvement politico-militaire que j'appelle AFC M23, ils ajoutent, et dans le Rwanda. Et en même temps, faire l'opposition civile démocratique au pays. C'est quand même rédhibitoire. Deuxième des choses, comment voulez-vous aller à un dialogue où, lorsque vous avez affaire à certains opposants, au clair de la lune, tout comme de manière camouflée, ont déjà fait allégeance à Kigali? Ça me rappelle une phrase de Kiba Samaliba au Zaïre qui dit que ceux qui ont mangé à la table du diable. Alors ça veut dire...
Et vous en avez les preuves, Passim Bayo?
Oui, mais les preuves ne sont pas tantes. Le dernier rapport, par exemple, de l'ONU, ce n'est pas moi qui ai cité, par exemple, le président d'ensemble, dans un certain rapport pour lequel il a même fait une lettre de recours. Ça, c'est l'ONU. Je vous prends l'exemple d'un parti politique... pour lesquels je crois le parti de Damar Kabound, où deux hautes autorités de son parti, dont le secrétaire général et un membre du comité national, ils racontent sur les médias Kinshasa, par exemple, que mais nous avons quitté là-bas puisqu'on a constaté qu'il y avait une allégeance entre leur ancien président et Joseph Kabila.
Passim Bayo, est-ce que vous pouvez parler de ceux qui participent au débat que de citer d'autres personnes parce qu'elles n'auront pas les droits de réponse maintenant même? Restons dans ce cadre-là pour ceux qui participent puissent avoir de quoi dire parce qu'ils ne peuvent pas engager les partis auxquels ils n'appartiennent pas. Voilà.
Je parle des documents officiels, donc ça ne vient pas de moi. Je ne fais que ressasser ce que tout le monde connaît. Bref, je dis ceci, que lorsque vous voyez le comportement de Maxime Prévost, on se connaît. C'est-à-dire, quand j'arrive en Belgique en tant que UDPS, il y a un camp politique qui va m'accueillir et un autre qui va me rejeter. Et donc, le camp politique de Maxime Prévost, c'est la Wallonie libérale qui est contre le régime actuel à Kinshasa. Donc, il est tout à fait normal qu'il
essaie de faire un bon camp. Lorsque le même Maxime Prévost parle en faveur du régime de Kinshasa, je ne vous vois pas lever le doigt pour dire ce qu'il a dit. Si nous pouvons évoluer avec vous, Passim Bayo, est-ce que vous estimez réellement
nous
que
évoluons, nous
la crise...
en disant que...
Oui, j'ai fait un pas de plus. Hein.
Maxime Prévost n'a pas raconté à l'opinion publique les choses qui ont fait sujet d'échange entre le roi belge et le président de la République. Il a profité, vous avez bien dit dans votre exposé, qu'en dehors de cet échange, il a fait une déclaration, il a tweeté. Donc ça veut dire...
Mais oui, alors...
Passim
Bayo, allons tout droit à l'essentiel. Au regard de la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de notre pays, est-ce que le dialogue paraît en ce jour comme étant une panacée?
Le dialogue entre Diamando, les amants de Kabound, le Martin Fayou, etc., etc., c'est un dialogue qui doit avoir lieu.
Merci beaucoup.
On ne peut pas mélanger les choux et chèvres en prenant ceux qui ont versé le sang du peuple, en les amenant dans une question aussi civile et démocratique comme celle-là.
Voilà, nous allons y revenir avec vous, Passim Bayo. Oui, Passim Bayo.
Il y a une pause colonne.
10 secondes, on passe au professeur Maloukissa qui est avec nous dans ce studio.
Il y a une chose que l'on ne vous dit pas. Je dis de la table ronde de Bruxelles, en passant par la CNF, de San City, jusqu'au deux derniers dialogues ici de
vous voulez dire qu'aucun dialogue n'a jamais tout résolu. Hein? Nous n'avons compris là où vous allez, aucun dialogue n'a
vous
jamais tout résolu.
Vous allez rendre compte que nous n'avons pas tenu de dialogue qui font unanimité, ça fait de un. Et des deux, nous n'avons pas tout résolu par le dialogue. Et puis, troisième élément, il y a un élément dérangeur dans tous les dialogues dans l'histoire de notre pays, c'est le droit de citer dans l'exécutif, ce qu'on appelle autrement le partage du pouvoir.
Voilà.
Je vous dis que ça va atterrir par le partage de pouvoir.
On le verra dans les instants qui suivent, Passim Bayo. Nous passons, s'il vous plaît, Passim Bayo, on passe la parole à...
L'histoire de notre pays l'a prouvé.
S'il vous plaît, Passim Bayo, on passe la parole à Jolino Maloukissa, professeur, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes directeur du pilier gouvernance à l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence à Ebouteli. Et d'après vous, est-ce que le dialogue paraît en ce moment comme étant une panacée pour qu'on trouve réellement une solution au problème qui mine la RDC, notamment dans sa partie Est?
Merci beaucoup. Je salue également Christian Mwando et Passim Bayo, ainsi que tous les auditeurs de la radio CAPI. Alors, je ne dirais pas que le dialogue peut constituer aujourd'hui une panacée, mais c'est une voie importante, peut-être une voie royale aussi pour essayer de trouver des solutions aux problèmes majeurs qui créent l'instabilité au Congo. On a besoin de ce dialogue pour renforcer la cohésion. C'est important parce que regardez bien, tous les pays voisins et principalement le Rwanda, quand il faut attaquer le Congo, on se sert des Congolais. Et généralement, c'est des Congolais mécontents qui rejoignent la rébellion instrumentalisée par le Rwanda. Donc, de ce point de vue, le dialogue est capital. Et quand nous voyons aujourd'hui des acteurs majeurs, pas négligeables quand même, de la scène politique congolaise qui sont à l'extérieur, c'est parce qu'il y a des soucis sur le plan interne. Donc, dans tous les cas, comme vous l'aviez si bien dit, le président de la République lui-même parle de ces dialogues. Mais quand on dit qu'il faut dialoguer tout simplement avec ceux qui ne sont pas derrière le Rwanda, alors que du côté Doha, du côté Washington, on a fait avancer les pas, on a quand même discuté avec les agresseurs, on a discuté avec ceux qui tuent, qui massacrent les Congolais jour et nuit à l'est du pays. Et si on peut assimiler les autres à ces camps, alors à ce moment-là, le dialogue sera toujours possible. Mais ce qu'il faut dire également, parce que c'est aujourd'hui l'opposition politique, une France de la société civile qui tiennent aussi à ces dialogues, mais au fait, on sent aujourd'hui une opposition en perte de vitesse, hein. Une société civile qui est dans la même impasse, parce que regardez, en 2015, 16, 17, c'est une société civile, une opposition qui était assez forte pour pousser Kabila et son régime à pouvoir négocier, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on est dans une situation où la crise est très sévère et il est vraiment capital qu'il y ait des avancées significatives pour aller à ces dialogues. Mais aussi, il faut comprendre une chose. Pourquoi aujourd'hui la France, la Belgique veulent pousser à ces dialogues? Mais c'est parce qu'aussi, sur le plan international, il manque de cohésion. La démarche de Washington, de Doha, a exclu l'Union européenne, a exclu la France, a exclu la Belgique, qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est fait parce que ça profite davantage aux États-Unis d'Amérique. Donc il faudrait essayer encore de récupérer cette situation en misant sur l'Union européenne, en misant sur l'Angola. Mais là encore, on a vu la France essayer d'avancer dans cette direction à un moment donné. Ça n'a pas donné de bons résultats. La France a promis que, vous le président français, que l'aéroport de Goma devrait être réouvert le plus rapidement possible. Ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, en fait, on a besoin vraiment des acteurs externes qui peuvent pousser les Congolais à aller de l'avant, mais au fait, les Congolais eux-mêmes doivent se rendre compte que les initiatives qui viennent de l'extérieur, très souvent, ne les aident pas à aller de l'avant. Il faudra qu'en interne, qu'il y ait vraiment une bonne volonté pour harmoniser les points de vue.
Alors, vous avez suivi tout à l'heure l'honorable Mwando Simba qui a parlé, ainsi que Maître Passimbayo, des deux, et à quel niveau ils se rejoignent, à quel niveau ils se distancent?
À quel niveau ils se rejoignent, c'est lorsque les deux estiment que le dialogue est quand même important, mais d'un côté on dit pas avec ceux qui sont derrière le Rwanda, et de l'autre côté on dit mais vous avez déjà négocié avec le Rwanda, vous avez déjà négocié avec les autres. C'est là où il y a une divergence de vue. Mais de mon point de vue, il n'y a aucun Congolais qu'on peut exclure de ces dialogues, d'autant plus que le Rwanda continue jusqu'à présent à se servir des Congolais pour maquiller son agression. Aujourd'hui, tout a été dévoilé, mais dans tous les cas, si on ne fait pas attention, ce qui s'est passé aujourd'hui peut encore se répéter demain. Or, nous avons besoin vraiment d'une paix durable dans ces pays. À ce moment-là, il faut tenir compte vraiment de tous les acteurs majeurs, de la scène politique, de la société civile qui peuvent nous aider à aller de l'avant.
Et vous estimez que le dialogue, enfin, la formule du dialogue, peut être considérée comme étant magique pour que le bruit de bottes cesse dans la partie est du pays?
D'abord, il y a eu déjà des dialogues, deux dialogues. À Doha et à Washington, le dialogue, c'est un pas. Et ces pas-là doivent donner lieu à d'autres pas. On a vu ce qui s'est passé à Sansisi, à Pretoria. Il y a eu dialogue. On a appelé ça dialogue global et inclusif. Mais en réalité, il ne l'était pas. C'est ça le plus grand souci. Quand des acteurs majeurs de la crise sont exclus, ils seront toujours mécontents et finalement, ils cherchent toujours des ressources extérieures pour attaquer les pays et pour avoir le pouvoir, pour conquérir le pouvoir ou accéder au partage.
Merci beaucoup, Jolino Maloukissa. Christian Mwando Simba, nous avons cet auditeur qui nous appelle à partir du Lualaba et qui a une question pour vous.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Les dialogues nationaux inclusifs tels que préconisés par certains partenaires internationaux ne constituent pas la solution à la crise dans l'est de la RDC. Cette crise est avant tout sécuritaire et géopolitique, marquée par l'agression extérieure et la prolifération des groupes armés. Dialoguer ne neutralise ni les armes, ni les réseaux de soutien régionaux. L'expérience congolaise montre que les dialogues répétés ont souvent produit des compromis fragiles. Ils ont parfois légitimé la violence au détriment de l'autorité de l'État. La priorité doit rester la restauration de la sécurité et du contrôle territorial. Je pense que sans les désarmements effectifs et une justice distributive, tout dialogue reste inefficace. La paix ne se décrète pas autour d'une table, elle se consolide sur le terrain. Pourquoi miser encore sur les dialogues alors que les précédents n'ont pas mis fin à l'insécurité? Les dialogues inclusifs n'est-il pas devenu un alibi diplomatique face à l'échec des solutions sécuritaires?
Voilà, honorable Christian Mwando, vous venez de suivre Patrick Mbouli qui nous appelait du Lualaba et c'est une question qui vous est adressée.
Oui, je voudrais dire à M. Mbouli qu'il y a un problème. Si le pays était fort, avec une armée forte, avec un État fort, je crois qu'on ne serait même pas agressé, on ne serait même pas à la guerre et la guerre se serait terminée militairement. Il y a cette incapacité, cette faiblesse structurelle du pays qui ne permet pas de terminer la guerre sur le plan politique. Le processus de paix, nous ne nions pas que ce n'est pas le dialogue seul, inclusif, qui va terminer la guerre. J'ai dit qu'il y a trois axes complémentaires. Le premier axe, qui est le dialogue ou l'accord de paix entre le Rwanda et le Congo, est un aspect important qui règle les aspects externes du problème. L'axe Doha-Kinshasa est un aspect M23 et Kinshasa. C'est un élément important pour régler le problème de cesser le feu entre belligérants. Mais l'aspect le plus important, c'est de mettre autour d'une table tous les Congolais. Pourquoi? Parce que lorsque seuls les belligérants ont droit à la parole, alors pourquoi moi ou quelqu'un d'autre demain ne deviendrait pas aussi belligérant pour avoir droit à la parole? Je pense que l'essentiel dans le dialogue que nous recherchons, c'est que nous trouvions une solution interne consensuelle de manière à ne pas donner raison uniquement à ceux qui ont fait usage de la force pour décider du destin de la République. Et je pense que c'est le fait que nous avons un État faible qui doit nous conduire à nous asseoir tous autour d'une table pour voir comment refonder cet État, sur quelle base et sur quelle base consensuelle nous nous mettons d'accord pour avancer ensemble. Mais si M. Mboudi considère, contrairement à ce que nous a dit le ministre Nzang sur le plateau de télévision pour nous dire que l'armée n'a pas la possibilité, la capacité de mettre fin à cette guerre, s'il considère qu'on doit continuer dans la guerre, eh bien, libre à lui, mais en tant que patriote, je pense que le dialogue, la cohésion nationale, la cohésion interne est une solution efficace, dans la mesure où aucun peuple divisé n'a jamais gagné une guerre, aucun pays divisé n'a suivi le chemin du développement.
Merci beaucoup, et là nous retournons auprès du professeur Jolino Maloukissa avec cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani.
Bonsoir à Dieu Capi, c'est Héritier Kibangu depuis la ville de Kisangani. Le dialogue national inclusif est l'une des solutions pour mettre fin à cette crise. Cependant, lorsque les étrangers commencent à s'y impliquer, ceci reste à désirer puisqu'on ne connaît pas ce qui est caché derrière leur motivation. Pour le dialogue national cette fois-là, l'initiative ne doit pas venir de l'étranger, surtout pas de l'Occident. Les mots lui-même le dit, dialogue national. La France et la Belgique viennent faire quoi ici? Soutenir ce que le chef de l'État lui-même n'a pas encore annoncé officiellement. Ceci veut dire quoi?
Joli nom.
Merci pour cette question. En fait, on se rend compte que nous nous retrouvons dans une impasse des dialogues. Si l'extérieur arrive à intervenir, la France et la Belgique aujourd'hui commencent à hausser les tons, c'est parce que en interne, ça ne marche pas. C'est comme si on a besoin d'autres médiateurs pour engager ces dialogues. C'est vrai. Ceux qui viennent de l'extérieur, écoutez, ceux qui sont à l'extérieur, c'est avant tout leurs intérêts qui comptent. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, les deux pays s'engagent dans ces processus parce que le processus de Washington, de Doha, leur a exclu, donc ils ne trouvent pas leur compte dedans. Et au fait, ces dialogues, de mon point de vue, j'insiste encore là-dessus, c'est capital parce que les agresseurs se servent des Congolais pour attaquer les pays. Il faudra absolument que le Congolais se mette ensemble, qu'il se regarde en face pour voir ce qui les divise et comment on peut colmater les brèches, comment on peut arranger ce qui ne va pas pour mieux préparer les élections en 2028. Et en plus, je voudrais insister encore là-dessus parce qu'on parle même de l'armée. Mais ce qui dérange notre armée aujourd'hui, ce n'est pas un problème de moyens, c'est aussi un problème de cohésion, même au niveau de l'armée. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'au front, il y a pas mal de divergences. La chaîne de commandement ne marche pas. Il y a une fragmentation de l'armée. Donc, même ces dialogues, ça ne devrait même pas s'arrêter aux hommes politiques. Ça doit aller plus loin. Ça doit aller plus loin. C'est une voie importante pour faire les restes après.
Merci beaucoup, Isidore Maloukissa Passimbayo. Il y a l'auditeur qui nous appelle depuis Bukavu et il a une question pour vous.
Isidore Dunia depuis Bukavu. À mon avis, la Belgique et la France ont pleinement raison de s'unir pour soutenir l'idée d'un dialogue national inclusif en République démocratique du Congo. Une telle initiative traduit non seulement leur attachement indéfectible aux valeurs démocratiques, mais aussi leur volonté sincère d'accompagner les peuples congolais dans la quête de stabilité, de justice et de cohésion nationale. Ce partenariat ouvre la voie à une concertation où toutes les voies sans exclusion peuvent contribuer à bâtir un avenir fondé sur la paix, le respect des institutions et la dignité humaine. Cette démarche témoigne d'une reconnaissance de la souveraineté du peuple congolais et de la nécessité d'un dialogue qui transcende les clivages politiques, ethniques et régionaux.
Passimbayo.
Bien, j'ai dit tout de suite que le discours de Maxime Prévost n'a pas totalement engagé la Belgique en tant qu'État.
Est-ce que vous pouvez bouger un tout petit peu pour que votre ligne soit bien?
Oui. Je ne sais pas si vous me captez maintenant.
Ben, ça va quand même. Allez-y.
Alors, je disais que d'abord, le discours de Maxime Prévost n'a pas engagé totalement la Belgique en tant qu'État. Puisque quand vous lisez même sa publication en question, vous sentez qu'il exprime aussi une tendance de son camp politique. Je vous ai dit tout à l'heure que la Belgique, elle a toujours des camps. Demain, ça sera André Flao qui prendra parole pour faire peut-être une remontrance ou un rappel à l'ordre ou une correction à propos de Maxime Prévost. Cependant, qu'ils sont tous membres du gouvernement. Donc, on connaît comment ça fonctionne. La France a prouvé son incapacité sur la question de l'Est. Ben, elle s'est bombée les torses en convoquant une conférence internationale sur la crise dans le Grand Lac à objectif des solutions humanitaires. Mais lorsque la France a osé dire qu'il faut qu'on ouvre l'aéroport de Goma, ce n'est ni le M23 ni l'AFC qui ont déclaré, c'est d'abord le Rwanda. Ndunguru a parlé, puis Kagame parle. Il parle de son Goma, il parle de son bout. Et vous pensez que dans le contexte sous examen, nous allons abandonner notre identité patriotique pour ouvrir la porte à un dialogue qui serait piégé. J'ai dit tout de suite que mes compatriotes de Colombie et de Kisangani ont dit des choses congolocentriques. Et moi, j'ai tressailli de patriotisme dans mon fort intérieur. Ça veut dire, le professeur parle d'une armée implosive. On l'appelle comme ça en sociologie politique. On dit aussi infiltrer tout ce qu'on raconte. Mais d'où est venue cette infiltration? Mais de Sun City.
Mais voilà pourquoi il faut dialoguer pour déraciner les différents mots.
Mais Sun City, c'est un autre dialogue.
Bien sûr, parce que...
Sun City.
Est-ce qu'on peut se fatiguer de dialoguer pour autant que cela soit une voie salutaire pour le pays?
Il y a un principe philosophique qui dit la meilleure façon de regretter le passé, c'est de faire mieux le présent. Alors, si on n'applique pas ce principe, nous allons évoluer dans un mouvement uniformément retardé. Voilà que Sun City nous a laissé des reliquats problématiques. Dans l'armée, dans les renseignements, dans la douane, dans tout ce qu'on raconte là-bas, quand l'État congolais veut s'assumer, ceux qui sont entrés par la fenêtre du RCD, du RCDN, tout ce qu'on raconte là-bas, ils servent de pont à Kigali. Ça, c'est un premier. C'est une vérité incontestable.
Vérité incontestable d'après alors, vous. Merci, Passim Bayo. Nous allons vite retrouver Christian Mwando, à qui nous demandons si le dialogue à venir ne pourrait pas aussi exacerber la crise au cas où les participants venaient avec les cahiers de charges allant jusqu'à remettre en cause la légitimité des institutions établies.
Christian Mwando. Je pense qu'à notre niveau, nous considérons que le dialogue doit se tenir dans le respect de la Constitution. Enfin, nous sommes combattus contre des changements de la Constitution. Donc, l'ordre établi par la Constitution doit être respecté. Je voudrais peut-être revenir un peu à mon débatteur, M. Mbaye, que je salue de façon, pour lui faire remarquer une chose. C'est trop facile ce qui est dit pour dire, voilà, Congolais centré. Mais tout ce qui se fait a été fait à l'extérieur. Washington, c'est à l'extérieur. Doha, c'est à l'extérieur. Luanda, c'est à l'extérieur. Lomé, c'est à l'extérieur. Mais de quoi vous parlez? Vous parlez de l'intérieur seulement quand ça vous arrange. Alors que, aujourd'hui, où se trouve le président de la République? Le président de la République est à Davos. La Davos, c'est au Congo. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste. À un moment donné, il faut accepter de se faire accompagner. Et les Belges ne sont pas aussi comme certaines des autorités. M. Prévost a fait le compte rendu de ce qu'il a dit avec le président Tshisekedi.
Je voudrais également me rassurer que ceux qui débattent ont lu l'accord de paix avec le Rwanda et ils ont lu le protocole d'accord de Doha. Mais lorsque vous lisez l'accord cadre de Doha, mais tout ce que M. Mbaye reproche là, mais c'est repris dans ce qui doit être négocié. Quand on parle de démobilisation et réintégration, hein, comme point 5 des protocoles qui doivent être négociés, quand on parle d'identité et de citoyenneté, mais ils veulent négocier cela, ils ont accepté de négocier cela avec l'AFC-M23. Donc, ça ne sert à rien de faire comme d'habitude, sortir et bomber le torse, lorsque lorsqu'on se retrouve avec les autres partenaires, on n'arrive pas à s'assumer. Je crois que le dialogue est nécessaire. Nous devons tous mettre de l'eau dans notre vin et de manière à ce que les choses se passent de manière consensuelle. Tout le monde est de bon sens parce que le risque que nous courons avec un entêtement inutile, c'est la balkanisation du pays. Qu'est-ce que ça coûte aux uns et aux autres, notamment pour le territoire conquis, que le statu quo soit maintenu comme ça? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'il y a la force de récupérer les territoires par la force? Donc, un peu de bémol, acceptons l'accompagnement extérieur, acceptons de nous mettre tous, sans exception, sans exclusivité, autour d'une table et trouvons des solutions nationalistes pour notre pays. C'est tout ce que je conseille.
Voilà. Passim Bayo, et cette question vous est également adressée. Est-ce que le dialogue ne va pas exacerber la crise au cas où les participants venaient avec des cahiers de charges allant jusqu'à vouloir remettre en cause la légitimité des institutions? Est-ce que ça ne sera pas un faux départ?
Mais ça s'est dit déjà. J'ai suivi mon compatriote Prince Epeng, par exemple, dire qu'il veut un dialogue sans Tshisekedi. Or, Tshisekedi dont on parle ici, ce n'est pas simplement l'enfant de Maman Marthe. C'est la première institution du pays. Donc, il y a des intentions dans tous les sens. Moi, je dis que je suis effectivement d'accord pour l'idée du dialogue, puisque le président de la République n'est pas contre. Pour apaiser l'honorable Christian Mwando. Mais lui et moi, nous avons été dans l'opposition, dans le RASOP. Kabila nous a malmenés comme des chiens dans notre pays. Pourquoi nous ne sommes pas allés prendre les armes et verser le sang de nos compatriotes pour avoir un droit de citer dans un dialogue quelconque? On a été avec eux dans les dialogues de la CENCO, mais Kabila a botté en tout ce dialogue-là. Au point qu'au lieu de tenir les élections en 2016, nous sommes allés en 2018. Pourquoi n'avons-nous pas pris les armes pour avoir un droit de citer dans la marche de la nation? Moi, je voudrais que les gens aient vu un peu un langage congolo pessimiste.
Voilà, professeur Jolidon.
Cette armée congolaise est en train de se reconstituer.
Comment réagissez-vous à l'approche de Passim Bayo?
Alors, il faut observer une constance, hein, même dans la position du président de la République. À un moment donné, le président de la République était ferme. Pas de dialogue avec le M23, l'AFC. Le dialogue, c'est avec le Rwanda. Mais on a senti, au fur et à mesure que l'adversaire a démontré sa puissance...
Et les positions
ont
changé.
Les positions ont changé. Le plus grand souci qu'on a aujourd'hui, on a une opposition, comme je le disais avant, une société civile, à plat. Presque à plat. Incapable de faire bouger les lignes. Parce qu'à ce moment-là, ça donne aussi aux arguments au président de la République, au camp présidentiel, pour dire, écoutez, ils ne veulent pas du tout.
Et que vient de dire Passim Bayo par rapport à ce qui s'est passé les années antérieures.
Oui. Oui, mais regardez les années antérieures. Qui ont poussé au dialogue? C'est l'opposition, c'est la société civile. La population ne voulait plus le troisième mandat des Kabila.
Mais elles n'ont pas pris les armes.
Oui, mais justement... Le souci que nous avons, c'est là où j'insiste pour ces dialogues aussi, mais ça doit être un dialogue sincère, ça doit être un dialogue avec des acteurs clés, animés de bonne volonté pour aller, pour
participer. Mais comment jauger la bonne volonté? Comment jauger la bonne volonté?
Un instant. Regardez. En fait, comme je l'ai dit, le Rwanda, c'est toujours des Congolais pour agresser le pays. Comment jauger cette bonne volonté? Mais la bonne volonté est appréciée par les fruits que ça démontre, et avant la négociation, pendant les négociations et après les négociations.
Voilà, nous allons commencer à chuter avec cette question. Honorable Christian Mwando, est-ce que l'issue du dialogue ne va pas fragiliser l'opposition au cas où il serait question que les protagonistes puissent se retrouver dans un gouvernement d'union nationale?
Bon, la fragilisation de l'opposition, je pense que avec tout le système tout à fait mis en place, c'est tout à fait une évidence. Mais lorsque vous posez la question en termes de gouvernement d'union nationale, la question revient souvent sur la table. Oui, les gens veulent aller pour partager le pouvoir et ainsi de suite. Il faut se mettre d'accord sur une chose qui a toujours existé à l'issue de toute négociation. C'est que lorsqu'on termine des négociations, on se met d'accord sur le principe à suivre.
Votre ligne se dégrade un peu. Votre ligne se dégrade un tout petit peu. Est-ce qu'il y a moyen de bouger?
Oui, vous m'entendez?
Maintenant, ça va.
Oui, donc on décide ensemble d'une feuille de route, donc des actions à mener jusqu'à une échéance fixée. Et en ce moment-là, bien entendu, il est question de définir quels seront les acteurs. Et en ce moment-là, bien entendu, souvent ce qui se passe, c'est qu'on désigne qui va quoi pour accomplir cette feuille. Également, pour appuyer les gens concernant l'exécution des résolutions. Maintenant qu'on a le processus aussi à Lomé, il faudra qu'on mette en place un mécanisme comme celui qui a été mis en place après Stan City, c'est un comité international d'accompagnement des résolutions sur du dialogue qui va avoir une force de pression sur les principaux protagonistes. Je pense que vous avez eu un exemple concret avec ce qui s'est passé avec les États-Unis, avec la question d'Ouvira. Lorsque vous avez un garant puissant, il est possible quand même de faire respecter certaines résolutions. Je pense que si tout le monde est de bonne foi et que nous réfléchissons en tant que nationalistes pour faire avancer notre pays et que nous mettons en place un comité international d'accompagnement, les résolutions de ce dialogue vont être mises en œuvre.
Merci beaucoup, honorable Christian Mwando. Je considère cela comme étant votre conclusion et je passe la parole à Passim Bayo. Est-ce que l'opposition ne pourra pas être fragilisée au cas où les conclusions de ce dialogue aboutissaient à un gouvernement d'union nationale?
D'abord, je dis bravo à l'honorable Christian Mwando puisque il a en quelque sorte rejoint l'idée du président de la République lorsqu'il présentait son désidrata.
Est-ce qu'il y a moyen
au dialogue en question?
Il y a moyen de désactiver le téléphone en main libre?
Ah, d'accord.
Voilà.
Alors, il a rejoint quelque part le président de la République. Je dis que c'est une sportivité démocratique. Deuxième des choses, je voudrais rappeler un élément important, ça sera un reliquat malheureux. Doha, les conditions qui ont été données à Doha et que nous avons signées, la réinsertion ou l'intégration est exposée à des conditionnalités. Donc ceux qui ont versé le sang, qui sont dans les crimes contre l'humanité, qui ont tout ce que vous connaissez, c'est écrit là-bas, n'ont pas un droit de cité puisque on ne peut pas s'étayer un droit dans un pays démocratique au motif d'avoir versé le sang. Donc l'époque de Abdel, Lusaka, Sand City, c'est révolu. Alors, mais à propos de l'opposition, mais déjà, vous avez vu, l'honorable Christian Mwando est allé à la rencontre de Mbata, secrétaire permanent de l'Union Sacrée, pour se rassurer d'un électorat pour l'honorable Clotilde Moutita. Mais déjà, lui, quand il ouvre une démarche, on appelle ça de la démocratie consensuelle. Dans son propre camp politique, il a été traité de tous les mots d'oiseaux. Vous vous rappellerez des Kamitatu et des Onyemba, etc., etc. Ça veut dire, dans un pays à démocratie multipartiste, il est difficile
d'avoir une unanimité de point de vue par rapport au parti d'opposition. Déjà, cette opposition, elle est hétéroclite par nature.
Concluez,
s'il vous plaît. Et cela est même renforcé par notre constitution.
Concluez, s'il vous plaît.
Qui conçoit une opposition intra-institutionnelle et extra-institutionnelle. Et retenez que je vous dis, je le répète, c'est un mensonge patent de faire croire à l'opinion que le dialogue tant souhaité par cette opposition hétéroclite n'aura pas besoin d'atterrir par un partage de pouvoir. Sinon, les uns vont faire le gros dos, comme d'habitude, les autres embarqueront dans le bateau.
Merci beaucoup, Passim Bayo.
Merci
beaucoup, Passim Bayo. Je considère cela comme étant votre conclusion. Et pour terminer, c'est avec le professeur Jolino Maloukissa, vous également, dites-nous, est-ce que l'opposition ne sera pas émiettée? Est-ce qu'elle ne sera pas fragilisée lorsqu'elle pourra aller dans un gouvernement d'union nationale dans 45 secondes?
Oui, c'est un risque à ne pas sous-estimer. On l'a toujours vécu au Congo. Hein. Chaque fois qu'il y a partage des pouvoirs, ça aboutit à ce genre de situation. Et cette question du partage du pouvoir, c'est fort probable que ça soit dans cet agenda du dialogue. Et, ben, évidemment, il faut tenir compte des acteurs majeurs, hein, même s'il faut aller jusqu'à ces points. Et dans tous les cas, l'avenir du Congo dépend avant tout de ce que les Congolais eux-mêmes veulent faire de leur pays. Nous estimons qu'au stade où nous sommes arrivés, c'est vraiment capital que les Congolais puissent dialoguer, puissent échanger sur l'avenir de leur pays et surtout avoir une vision vraiment à long terme. Parce que jusqu'à présent, les dialogues se sont déroulés, c'était avec une vision à très court terme, c'est-à-dire que les choses ne marchent pas.
Merci beaucoup, Jolino Maloukissa, et c'est là est considéré comme étant votre conclusion. Ainsi donc, nous disons merci à l'honorable Christian Mwando Simba, qui est membre de l'Ensemble pour la République, en même temps président du groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale. Nous disons merci à Passim Bayo, qui est cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, et qui est à Lubumbashi, mais pourquoi pas aussi à Jolino Maloukissa, qui est professeur et directeur du pilier gouvernance à l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence à Ebou. Ainsi donc, c'en est fini pour ce numéro de dialogue entre Congolais de ce jeudi. André Mongou était à la technique, la réalisation de Benjamin Moudoumbi, la coordination de Guy Maté, à la présentation Jean Ngandou. Merci de nous avoir suivis et à plus.